Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. On est dans l'émission La Voix Libre, une émission de l'association Picassoft. Et aujourd'hui, on est avec Stéphane et Grégoire de Picassoft pour parler de redécentralisation du web. Bonjour à vous.
Bonjour Quentin.
Bonjour Quentin.
Et nous avons le plaisir d'avoir Hervé Lecronier de CF Éditions pour inviter. Et je laisse Stéphane le cuisiner.
Bonjour Hervé.
Bonjour à vous.
On t'a invité pour notamment pour nous parler du livre de Fred Turner aux sources de l'utopie numérique. Avant qu'on aille sur ce sujet, est-ce que tu veux bien peut-être te présenter en quelques mots, nous parler de ta maison donc d'édition qui traite de culture numérique, de fonctionnement d'Internet, de liberté informatique, de commun, de choses qui nous intéressent ici. Je me permets de citer un ou deux des ouvrages qui sont édités chez toi, j'espère que ça ne t'embêtera pas, mais par exemple L'appétit des géants, Surveillance ou Cyberstructure, avec des auteurs qu'on espère avoir la chance d'inviter un de ces quatre sur cette émission La Voix Libre. Mais donc, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi et ta maison d'édition pour commencer ?
Moi, en fait, j'ai été bibliothécaire pendant 10 ans. C'est là que j'ai découvert Internet. Mais bibliothécaire veut dire que j'aime beaucoup les livres. Je pense que de toute façon, le changement social passera par les livres, c'est-à-dire par des endroits où il y a le temps de faire la réflexion. Donc, il y a 15 ans, avec Nicolas Taffin, qui était lui graphiste et typographe, nous avons créé CEF Éditions. Donc 15 ans déjà, ce qui nous a permis de couvrir en fait le secteur de ce que j'appelle la culture numérique, c'est-à-dire au sens large comment l'Internet et les réseaux numériques ont percuté l'ensemble de la société et comment ça nous oblige à réfléchir à nouveau aux questions centrales que sont la vie privée, la démocratie, les relations humaines, les relations interpersonnelles, etc. etc.
Bien, merci pour cette introduction. En particulier, donc moi, il y a un ouvrage qui m'a fort intéressé, qui est donc celui de Fred Turner, donc aux sources de l'utopie numérique. Je donne le sous-titre complet, de la contre-culture à la cyberculture, donc Stuart Brand, un homme d'influence, qui retrace donc le parcours de cette personne, Stuart Brand, qui nous est présenté là comme un des pionniers d'Internet par Fred Turner. Et pourtant, ce n'est pas une figure extrêmement connue de l'histoire d'Internet. Est-ce que tu peux prolonger un peu ça ?
Alors, sur ce livre-là, en fait, ce qu'a réussi Fred Turner et qui est un espèce de tour de force, c'est d'avoir fait la biographie d'Internet au travers de la biographie d'une personne qui n'est ni informaticien, ni programmeur, ni financeur de la NSA, ni etc., etc., mais qui est juste un journaliste, un espèce de Ludion, un personnage assez fantastique, même si je suis loin de partager l'ensemble de ses points de vue, le personnage est vraiment très attirant et fantasque, autant que fantastique. Donc Stuart Brand a créé, au début des années 70, quelque chose qui s'appelle le World Earth Catalog, c'est-à-dire le catalogue de tout ce qu'il était nécessaire d'emporter avec soi quand on partait vivre en communauté. En France, les gens qui parlent de communauté, souvent pensent à trois chefs dans le Larzac. 700 000 jeunes Américains, entre 68 et 72, sont partis vivre en communauté. C'est pas rien, 700 000. Ils avaient ce livre-là. Et parmi les choses que Stuart Brand disait qu'il faut emmener quand on va vivre en communauté, il y avait les premières calculatrices, Texas Instruments, il y avait des livres sur la cybernétique, il y avait des réflexions en fait sur comment le monde nouveau qui allait émerger devait éviter les pièges du monde hyper-industriel qui avait dominé en fait les années 60 et qui, jusqu'aux années 70, dominait aussi l'informatique avec des systèmes hyper-centralisés de fichage, de surveillance avec des ordinateurs centraux. Voilà. Donc, c'est en ce sens que Stuart Brand est représentatif, d'autant que, comme journaliste, dès le début des années 80, il a commencé à comprendre qu'avec Internet, il se passait quelque chose. Il a créé The Well, qui est le premier en fait forum Internet, le premier endroit où des gens pouvaient par mail échanger. Et là, je parle de 81, 82. jusque au début des années 90. Donc pendant 10 ans, c'était un peu un des seuls endroits où se créaient ce qu'on a appelé plus tard des communautés virtuelles. Donc il y a une, toute cette expérience-là. Il a aussi organisé en 84 la grande conférence des hackers dont parle Stephen Davy dans son livre Hackers, justement. Une conférence qui a regroupé toutes les figures qui sont, étaient célèbres ou allaient le devenir, que de Richard Stallman à Wozniak, etc. Donc, il a organisé ça. Et là, on voit déjà une première chose pervers, c'est que Stuart Brand organise des événements dont il va rendre compte ensuite comme journaliste dans les revues dans lesquelles il publie. C'est, là, on voit bien qu'il y a, il y a déjà un problème, mais ce problème est en fait... une des graines de toute l'idéologie d'Internet qu'on retrouve actuellement, c'est-à-dire l'idée que ce sont les gens qui créent les événements qu'ils décrivent eux-mêmes aujourd'hui dans les médias sociaux, hier dans les listes de diffusion, dans les forums, dans les news, etc., etc. Donc on a là cette espèce de mélange entre le travail proprement journalistique et le travail idéologique de construction de cette idéologie d'Internet.
Et de
qui
diffusion.
Va culminer dans les années 90 avec la création du journal Wired, qui a réussi à fusionner en fait l'idéologie d'Internet et l'idéologie de ce qu'on appelle les libertariens, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il faut absolument se passer de l'État ou de toute autre structure capable d'organiser la vie collective, que la vie collective c'était en fait une succession d'activités individuelles portées par des personnes concernées. Des personnes actives, des activistes. Voilà.
Bon Hervé, je te coupe parce que là tu nous refais toute l'histoire jusqu'à nos jours. Est-ce que on peut revenir encore un petit peu dans le passé là autour de 68-69? Tu as cité des mots comme communauté, centralisation, des choses qui vont structurer un peu notre émission d'aujourd'hui. Et je voudrais revenir sur cette idée qui à mon sens est assez originale, la thèse de Fred Turner, donc à travers cette biographie, c'est que la naissance d'Internet en fait est marquée par la contre-culture, la culture hippie, notamment à travers sa diffusion dans les universités américaines au moment où le réseau naît. Et j'ai l'impression que l'on peut faire un parallèle entre justement ce caractère décentralisé par construction d'Internet et l'endroit et le temps en fait auquel ça apparaît, c'est-à-dire 69 et donc pour l'année hein, et sur la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire un des hauts lieux de la culture hippie. Ce lien entre Internet et communauté, mais au sens hippie avant de devenir au sens libre, tu en avais entendu parler avant de rencontrer Fred Turner?
Mais oui, parce que dès le début, Internet, on a dit que ça a été co-construit par les hippies et les militaires. Ce que rajoute Fred Turner, qui à mon sens est assez original, c'est qu'il n'y a pas de muraille de Chine entre la culture des communalistes ou des néo-communalistes, c'est-à-dire ceux qui allaient partir vivre en communauté, et la culture militaire telle qu'elle, la culture scientifico-militaire telle qu'elle s'est développée à partir de la Seconde Guerre mondiale et puis de la création de la cybernétique. Dans cette culture-là, en fait, il y a une espèce de mythe que c'est par la technologie qu'on va changer la conscience des individus. Que cette technologie soit la chimie, par exemple le LSD, ou qu'elle soit l'informatique un peu plus tard. Ouais, donc on a là une espèce de métastase de la culture de la coopération du transdisciplinaire militaire de des années de guerre et qui s'est poursuivie après autour de la cybernétique dans une contre-culture, c'est-à-dire dans le sens où elle va s'opposer au mode dominant, c'est-à-dire au mode industriel, y compris de l'industrie militaire. C'est quand même ça qu'il ne faut pas oublier. Mais qu'il n'y a pas... Enfin, c'est comme les deux côtés d'une pièce, quoi, d'une même pièce. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument qu'ajoute Fred Turner, et qui me semble très très important, c'est que c'est une question d'époque, de temps, donc le passage de la macro-informatique à la micro-informatique, mais c'est aussi une question de lieu, la Silicon Valley. En fait, que derrière la Silicon Valley, c'est la culture des ingénieurs. C'est pas uniquement la culture des hippies et de la drogue, c'est la culture des ingénieurs. Avec la création de Fairchild Semiconductor, Donc, Fred cite un exemple assez intéressant. Il dit, ben voilà, c'est des ingénieurs, il n'y a pas de patron, on est dans l'horizontalité, et donc le premier arrivé a le droit de garer sa voiture sur le parking, il n'y a pas de place réservée pour les chefs. Ça, c'est culture des ingénieurs qu'on va retrouver complètement dans la culture de l'Internet. Donc, lieu plus, plus époque égale l'opportunité de faire émerger quelque chose de nouveau, d'autant qu'il y avait des gens qui faisaient l'intermédiaire, dont notamment notre ami Stewart Brandt, qui a, par exemple, aidé Douglas Engelbart, celui qui a inventé la souris, à prendre du LSD, et donc à faire la jonction en fait, entre cette culture des ingénieurs et la contre-culture, l'ouverture et la capacité à penser global aussi. Bon. Et un des aspects de la contre-culture.
Merci beaucoup Hervé pour tout ça. J'invite ceux que cette introduction a intéressé à poursuivre à travers le livre de Fred Turner sur ce sujet.
Je voudrais rajouter qu'on a publié deux autres livres de Fred Turner. Un qui s'appelle Le cercle démocratique, qui est la période d'avant, c'est-à-dire de 44, de 40 plutôt à 67, donc qui montre comment le multimédia est né là aussi dans l'esprit des musées de l'époque. Et puis un qu'on vient de publier, qui est un livre de photos sur la Silicon Valley elle-même, qui montre à quel point c'est devenu un univers toxique. C'est-à-dire que ces rêves de l'utopie numérique sont aujourd'hui en train quand même de devenir une grande dystopie. Et bon, il faut se poser la question du pourquoi. Ça sera l'occasion, je pense, d'un prochain livre.
Ça fait tout un programme, mais en effet, hein, tu introduis également la suite de ce que l'on va aborder aujourd'hui, puisque on va parler de décentralisation, de recentralisation et des différents éléments qui tournent autour. Peut-être une dernière question que je voulais te poser, qui est un petit peu hors sujet par rapport à l'émission d'aujourd'hui, mais j'ai été interpellé rapidement par la licence sous laquelle tu publies les ouvrages de CF Éditions, qui est donc une licence dite édition équitable, et elle me semble explorer quelque chose, puisque d'un côté donc tu refuses les DRM, les Digital Rights Management, donc les systèmes qui empêchent la lecture dans certaines conditions. Tu proposes, je cite directement la licence, que le lecteur-lectrice a le droit de faire circuler le document édité au sein de son cercle de proximité, y compris élargi à ses amis proches. Toutefois, cette liberté ne permet pas de rompre l'équilibre et l'équité en diffusant massivement ou à des inconnus. J'ai donc l'impression que tu cherches quelque chose entre une licence totalement ouverte et puis totalement libre, et puis effectivement les modèles classiques de l'édition. Ça, je trouve ça très, très intéressant, mais je me posais tout de même la question, puisque tu as les communs, c'est un sujet que tu connais bien, tu as publié également un livre dessus. En quoi est-ce qu'une licence totalement libre te paraissait trop risquée, peut-être, hein, pour une maison d'édition ?
Ce qui est libre, ce sont les idées, ce sont peut-être les formats qui ont déjà été financés. Par exemple, moi, mes cours ont été filmés et ils sont libres. C'est-à-dire tout le monde peut les prendre, les découper, c'est ce qu'on appelle les ressources éducatives libres. J'ai déjà été payé pour ça. Un livre, c'est autre chose, il y a une économie. Donc à partir du moment où il y a une économie, quel va être le modèle qui va permettre de publier d'autres livres demain, hein. C'est un peu ça l'enjeu. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas dire un livre, ça doit être gratuit. Non, ça n'a aucune raison d'être gratuit. Par contre, depuis toujours, le livre est fait pour circuler. Il est fait pour être prêté. On a justement publié un livre là-dessus qui s'appelle « Le livre échange ». Et dès qu'il y a un livre, les gens parlent, l'échangent, le prêtent, le revendent. Enfin, il y a toute une activité qui dépasse très largement l'achat d'un livre. Eh bien, on a voulu que dans le numérique, on retrouve cette activité, mais qui ne consiste pas à le mettre sur un serveur en disant « Venez, servez-vous tous, le monde entier, etc. Tant pis pour l'éditeur, tant pis pour l'auteur, tant pis pour l'avenir. » Bon, non, ça, c'est pas... Voilà. Après,
je pense que c'est effectivement ce que tu as...
C'est une chose contraignante, c'est-à-dire c'est un espèce de pacte moral en disant au lecteur « Nous, on te laisse des tas de facilités, tu vas pouvoir partager avec tes amis, mais en échange, fais-le correctement, équitablement. »
Exactement, et je trouve que c'était vraiment le terme extrêmement bien choisi, et je trouve que c'est une piste intéressante. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de licence, et on réabordera ça. Eh bien, écoute, Hervé, on va te remercier pour ces mots, pour cette introduction, et donc poursuivre de notre côté sur la question donc de la décentralisation et de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup, Hervé.
Merci à vous.
Bien.
Alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment donné envie d'acheter tous les livres dont Hervé a parlé, de les lire dans la minute.
On progresse en promo, puisqu'on avait oublié quand on a invité Fred Urbain de faire la sienne.
Et donc, exactement, c'est vrai.
Bon, messieurs, Quentin, Grégoire, vous saviez qu'Internet avait été inventé par des hippies qui avaient un lien avec le LSD. C'était des choses que vous saviez ?
Alors pas du tout pour ma part en tout cas, je sais pas toi Quentin.
Pas du tout, moi je pensais que les hippies c'était juste des gens qui fumaient des joints sur la plage, vraiment je suis complètement estomaqué.
Ben en fait, effectivement, l'histoire qui est plus communément racontée, en tout cas qui est dominante, c'est que qui est vraie aussi, hein, c'est que dans les années 60-70, eh bien, c'est l'époque de la guerre froide et qu'Internet est une réalisation, y compris des militaires, hein, donc dans l'association entre les militaires et les universitaires américains, et qui voulaient créer un réseau décentralisé, eh bien, tout simplement pour qu'ils soient en mesure de résister à une attaque nucléaire. Si la moitié des États-Unis devait à un moment disparaître sous une bombe, eh bien, on voulait en quelque sorte que l'autre moitié puisse continuer de communiquer. Et puis, on se rend compte, là, avec l'introduction que nous a fait Hervé Le Cronier, qu'il y a une autre influence, mais on voit qu'elle est extrêmement compatible, eh bien, qui est cette culture de la communauté, de l'horizontalité. Et donc, on a en quelque sorte une convergence entre cette pensée à la fois très pratique des militaires et peut-être un petit peu plus idéologique des communautés hippies de l'autre, qui converge vers une sorte de structure sans gouvernance, sans centre justement, et dont personne ne pourrait prendre le contrôle. Encore une fois, on l'a vu pour des raisons différentes. On a donc à l'origine un système décentralisé.
Et c'est vrai que juste, je voulais, comment dire, vu que là, je n'avais jamais entendu parler de cette thèse, je trouve ça vraiment incroyable, parce que souvent, comme tu disais, on présente déjà ça comme une invention des militaires, ARPANET et compagnie, mais il y a aussi cette idée, d'objets de recherche, tout simplement, des universitaires qui ont voulu connecter, mais les universités, moi je le voyais vraiment sous l'angle technologique, et le fait de rapprocher ça de la contre-culture, je pense que c'est assez, pas très instinctif aujourd'hui pour qui ne connaît pas trop le sujet comme moi, puisque aujourd'hui, Internet est complètement... dire rentrer dans les mœurs, tout le monde l'utilise, il n'y a pas du tout cette idée hippie ou contre-culture, quoi.
Donc, on va parler aujourd'hui redécentralisation. Donc, on voit qu'à l'origine, eh bien, on avait bien un système décentralisé. Alors, on hésite entre deux termes pour le moment. Hein, on a peut-être jonglé un petit peu. On parle parfois de redécentralisation d'Internet et de redécentralisation du web. Donc là, on a plutôt parlé d'Internet à son origine, et donc sa phase décentralisée. Et un des problèmes que l'on va soulever, eh bien, c'est surtout celui de la centralisation du web. Et parfois, on a tendance à confondre ces deux termes. Donc peut-être que Grégoire, tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre Internet et le web.
Alors oui, je vais essayer d'expliquer. Corrigez-moi si jamais je me trompe. Mais du coup, Internet, si pour résumer le plus simplement possible, ça va être la structure des communications qui vont se faire entre les différentes interfaces qu'on peut avoir. Donc par exemple, c'est les câbles qui vont relier toutes les différentes interfaces qu'on va utiliser pour communiquer. Et le web, ça va être le lien entre donc ces câbles qui vont nous relier entre nous et nous, donc l'utilisateur finalement, donc qui va permettre de rechercher une page Internet ou de mettre des fichiers en ligne. Enfin, plein de choses comme ça.
Donc ça, c'est pour la partie Internet. Et pour le web, tu nous le fais aussi ou...
Du coup, le web...
En fait, le web, c'est une des applications d'Internet, mais il y en a d'autres. Hein.
Il y en a plusieurs, effectivement. Vas-y, cite-en quelques-unes, peut-être.
On peut citer les mails, par exemple. La messagerie instantanée, le partage de fichiers pair à pair, qui, croyez-le ou non, n'est pas utilisé que pour faire des choses illégales.
Donc on a effectivement deux choses. Hein. On a d'un côté Internet, donc une infrastructure, comme tu l'as décrit Grégoire. On a le web, donc qui est en fait une des applications d'Internet. Alors évidemment, une application extrêmement visible, extrêmement dominante. Et une application qui est beaucoup plus récente, hein, qui date du début des années 90. On considère que le web a été inventé à Genève, au CERN, en particulier par Tim Berners-Lee, donc en 90. Mais donc ce ne sont pas... les mêmes éléments, la même chose, Internet et le web. Et donc, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus. Avant, Quentin, il y a un autre son qu'on voulait écouter. On va écouter au moins le début, peut-être pas en entier, parce que c'est un petit peu long. Mais c'est une description, je trouve, assez poétique d'Internet, de la naissance d'Internet, qui a donc été, qui est diffusée encore par Philippe Aigrin sur son blog. Philippe Aigrin, c'est un des fondateurs de la Quadrature du Net, qui a été fondée en 2008 et qui est donc une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet.
Et ben c'est parti pour cette écoute.
La première chose à faire pour reprendre en main notre futur, c'est d'écrire notre récit.
Un, deux, un, deux. On a été coupé ?
Eh bien, c'est pas lancé correctement. Est-ce qu'on essaie de le relancer ?
Ah bah écoute, on va essayer quand même, on va voir.
La première chose à faire pour reprendre en main notre futur, c'est d'écrire notre récit.
Bon, et bien, petit problème technique, hein, le son s'arrête au bout de 15 secondes.
Moi, j'ai pas de micro.
Pardon.
J'ai l'impression que tu vas avoir dû un peu de montage à faire quand on
oui, je crois aussi. Bon, on le rajoutera du coup au montage. C'est parti.
Bon, on repart. Non, on le rajoutera pas au montage.
Hein. Si, on pourra en rajouter en partie.
Bon, on repart.
Ouais, on repart.
Avec ou sans le son de Philippe Aigrin, que l'on peut de toute façon retrouver sur son blog paigrin.debatpublic.net, on reprendra à partir de là, mais pardon, je reparte. Bien, donc on a eu ces quelques mots de Philippe Aigrin que l'on peut retrouver sur son blog, donc paigrin.debatpublic.net. Alors, j'étais pas vraiment là au commencement d'Internet, je ne suis pas si vieux. Mais en revanche, j'étais là au commencement du web, ou pas très loin, j'étais étudiant à l'UTC en 94. Et donc, j'ai souvenir, hein, je peux témoigner du fait que le web était décentralisé au début. Il y avait des sites un peu partout. Ok, c'était pas toujours facile à trouver. On cherchait des URL. Mais on était vraiment dans une logique décentralisée et a priori on y serait moins. Donc est-ce que Quentin et Grégoire, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis ?
Eh ben oui, effectivement, Stéphane, moi j'avais moins 2 ans à l'époque dont tu parles, donc j'ai du mal à m'en rendre compte, mais aujourd'hui on constate que, en tout cas, Internet, et le web en particulier, s'est recentralisé. En fait, on peut le voir déjà en regardant simplement les statistiques du réseau. On voit qu'en France, les services web que les personnes consultent, 50% de ce trafic se fait sur 0,008% des sites web existants. On en a déjà parlé, c'est en particulier les fameux GAFAM. Google concentre 20% du trafic, Facebook français, hein, Facebook concentre 5% du trafic français. Et ceux qu'on n'a pas inclus dans les GAFAM, par exemple Netflix, qui concentre 14% du trafic en France et 35% aux USA, voire 50% aux heures de pointe. De plus, Stéphane, tu disais aussi qu'à ton époque, pardon d'utiliser un vocabulaire un petit peu...
Il n'y a pas de mal.
Eh bien, on se passait des URL, on avait un petit peu de mal à avoir une idée de ce qu'était complètement le web, alors qu'aujourd'hui, la plupart des personnes utilisent Google pour trouver, en fait, les sites, vont même taper, Picasso sur Google et ensuite se rendre sur le site de Picasso. Donc, par là même, il y a une centralisation des connexions sur Internet. Donc comme on l'a dit, Google, un seul moteur de recherche, quasiment une seule plateforme de vente, ou du moins une par continent, puisqu'on va avoir, je crois, Alibaba en Chine et Amazon en Europe et aux États-Unis. Trois ou quatre réseaux sociaux qui appartiennent presque à deux ou trois entreprises, hein, donc Instagram et Facebook, qui, je le rappelle, appartient à Facebook, Twitter, et puis bon, Google Plus, qui est décidément bel et bien mort, etc. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais oui, Internet s'est recentralisé, et comme l'a très bien expliqué Hervé, à la base, c'était complètement décentralisé. Donc là, pardon, je confonds un petit peu Internet et Web, mais vous me pardonnerez...
La confusion, effectivement, elle est légitime au sens où on voit bien que par construction, il y avait cette volonté d'échapper au contrôle. Hein, on l'a vu avec, d'un côté, les militaires qui ne voulaient pas que les communications en tant que telles, les possibilités de communiquer soient contrôlables, et la culture hippie qui voulait échapper au contrôle, on va dire encore une fois, plus par idéologie, par vision sociétale. Et on s'aperçoit aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée des gros acteurs sur le web, et bien qu'on assiste à une recentralisation, donc à une centralisation du web. C'est quoi finalement le problème avec cette centralisation? Est-ce que c'est bien le problème du contrôle qui est en jeu? Grégoire, tu veux enchaîner là-dessus ?
Oui, effectivement, il y a un gros problème là-dessus, c'est-à-dire que c'est quand, par exemple, on va aller sur Internet, si on veut communiquer, on va utiliser Facebook, et finalement, ça va être l'outil utilisé pour aller sur Internet. Et donc, par exemple, Facebook, qui met en avant des pubs sur son service, va pouvoir choisir le contenu qu'il va mettre. Ça crée vraiment plein de problèmes. Par exemple, avec Apple, on parle souvent d'interopérabilité, c'est-à-dire un service qui va pouvoir marcher si on veut changer. Par exemple, avec Apple, si on achète un MacBook, on va devoir utiliser tous les services d'Apple, donc l'Apple Store, l'Apple Music, toutes les choses comme ça. Et si on change, ça va pas être possible de passer sur un PC sous Windows, par exemple, en gardant les mêmes services qu'on avait sur Apple. Donc ça crée des problèmes déjà de ce point de vue-là. Ensuite, toutes les pubs qui vont s'afficher par exemple sur les réseaux, donc par exemple sur Facebook, c'est eux-mêmes qui vont choisir la pub qu'ils vont mettre en avant, donc ça peut créer des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que Facebook peut choisir les marques qu'il va mettre en avant et moins d'autres, donc c'est finalement eux qui vont choisir ce qu'ils vont pouvoir faire, donc ça crée un monopole de puissance d'une seule entité, puisque finalement aujourd'hui beaucoup de gens utilisent quand même Facebook, donc ça leur crée beaucoup de pouvoir. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui vont être soulevés également, payer ou pas payer des impôts, parce qu'effectivement, par exemple, sur le modèle de Facebook, ils ont une entreprise qui n'est pas en France, et pourtant, de nombreux Français utilisent le service, mais finalement, comme ils ne sont pas en France, ils ne payent pas d'impôts, parce que leur centre n'est pas basé ici. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on les fait payer quand même, parce que des gens utilisent leur service, ou non? Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise concurrence envers d'autres entreprises qui feraient ça sur le sol français? Comment départager? La loi est peu claire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce point-là.
Aussi, oui, déjà merci Grégoire, hein, c'était assez complet. Moi, je pense aussi au problème de lobbying et de pouvoir politique. On l'a vu, Facebook est particulièrement mis en cause dans les élections aux États-Unis. Enfin, Facebook pas directement, mais le fait de passer par cet outil, et notamment par la publicité, pour pouvoir choisir ce que certains types de populations qui ont une certaine idéologie vont voir. On a aussi au sein de l'Union européenne et d'autres structures, donc comme on l'a dit, des problèmes de lobbying. Donc ces entreprises qui centralisent énormément de données ont une influence absolument gigantesque, puisque ils sont présents partout, donc Microsoft dans les écoles, etc. Donc on peut en fait se dire que ces entreprises choisissent par leur pouvoir et leur champ d'action ce qui est bien pour le monde, et parfois à la place des États, et donc in fine des citoyens. Et enfin, on insistera peut-être à un autre moment là-dessus, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte que la donnée, c'est le pouvoir. Avoir les données personnelles d'énormément de gens différents, venant de n'importe quel horizon, c'est pouvoir comprendre le monde beaucoup plus que eux ne peuvent le comprendre, en tout cas comprendre certaines tendances, et du coup en profiter pour les influencer, et comme on le disait, pour choisir à leur place. Et ça, c'est un énorme problème.
On n'est pas les seuls, hein, on n'est pas juste quelques hippies de l'UTC à dire ça. Je cite par exemple la tribune qui est parue dans le New York Times de Chris Hughes, qui est un des cofondateurs de Facebook avec Mark Zuckerberg, et qui réclame le démantèlement de Facebook. Justement, alors non pas parce qu'il juge que Facebook serait le mal ou etc., mais parce qu'il considère qu'à un moment, il y a trop de pouvoir concentré entre trop peu de mains, en l'occurrence entre les mains d'une entreprise et même de son dirigeant, Donc là, on vient de faire encore une fois de brosser un petit peu les problèmes de la centralisation. On les aborde quasiment à chaque émission. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça à ce stade? Est-ce que on est obligé de se résigner? Tant pis, c'est comme ça. Internet a échoué à être décentralisé. Ou est-ce qu'il y a des choses à faire?
Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a une tribune qui a été portée aux élus de l'Assemblée nationale qui demandait plus d'interopérabilité auprès de ces plateformes-là, donc Facebook, YouTube, et donc qui leur demandait finalement de pouvoir l'utiliser, mais utiliser d'autres plateformes via celle-ci. Donc, par exemple, on peut citer Mastodon, qui, quand on l'utilise, va permettre de diffuser du contenu de la plateforme sur les autres plateformes qui sont, par exemple, Twitter, Facebook, mais tout ça en utilisant seulement Mastodon. Et par contre, l'inverse n'est pas possible. Oui.
Est-ce que tu peux peut-être juste rappeler ce que c'est l'interopérabilité, parce qu'on l'a jamais vraiment trop défini?
Alors l'interopérabilité, c'est par exemple, si je vais poster mon contenu sur Facebook, il va l'être en parallèle sur Facebook, sur Twitter, sur Mastodon, sur tous les services que je veux utiliser finalement en parallèle, mais sans le poster trois fois à la main, ça se fait tout seul directement.
Oui, donc c'est aussi le fait de ne pas être bloqué, comme tu disais, sur un seul service et de ne pas pouvoir en sortir, quoi, c'est ça?
C'est ça. Actuellement, la grosse force de Facebook, c'est finalement pas son outil, mais finalement la communauté qu'il y a derrière. C'est-à-dire il y a énormément de gens qui sont sur Facebook, et si aujourd'hui on veut quitter Facebook parce qu'on n'apprécie plus l'outil, il y en a d'autres qui nous correspondent mieux, c'est aujourd'hui très difficile parce que la communauté est là. Il faudrait faire migrer toute cette communauté directement d'un outil vers un autre, et c'est pas facile aujourd'hui.
Alors tu as parlé là de l'aspect établir des lois, hein, ce que Framasoft appelle l'approche globule blanc, hein, c'est-à-dire lutter contre effectivement les GAFAM en tant que tels, typiquement portée par une association comme la Quadrature du Net. Il y a aussi autre chose que l'on peut faire. T'as mentionné Mastodon. Quentin, tu veux nous donner quelques éléments?
Eh bien oui, effectivement, Mastodon cherche à créer de la diversité, et donc il y a un petit peu ces deux manières de faire. C'est d'une part contraindre les GAFAM pour essayer de limiter leur pouvoir d'action, ou du moins équilibrer les pouvoirs, et d'autre part des initiatives, soit d'associations, soit de personnes qui se fédèrent en communauté, on en revient au sujet de départ, et bien qui vont créer des alternatives et les diffuser. Donc Mastodon est une alternative de microblogging, donc on pourrait le comparer un petit peu à Twitter. Donc c'est un réseau social décentralisé. Ce qui est très important avec cette idée de décentralisation et d'interopérabilité, comme le disait Grégoire, c'est qu'on pourrait se dire, bon ok, un réseau social décentralisé, ça veut dire qu'on va avoir 10 Pékins sur chaque petit bout de réseau social. Alors, comme l'a dit Grégoire aussi, la force d'un réseau social, eh bien, c'est sa communauté, c'est le nombre de personnes qui sont dessus. Et ce qui est extrêmement élégant, extrêmement beau, et d'ailleurs on vous invite à taper Mastodon sur internet et à vous renseigner sur le web, à vous renseigner un petit peu, eh bien c'est qu'il y a différentes instances, donc ce sont des endroits hébergés localement où des utilisateurs vont pouvoir se connecter, et toutes ces instances sont reliées entre elles et peuvent communiquer entre elles, c'est-à-dire que je suis capable de suivre des personnes de n'importe quelle instance. Pour autant, eh bien, toutes les données ne sont pas concentrées à un endroit, elles sont réparties sur l'ensemble de la planète, et en fait, il y a un énorme parallèle à faire avec Internet lui-même. Donc finalement, c'est un peu un modèle méta d'Internet. Donc c'est en ça que c'est très beau et que ça peut constituer un élément de réponse à la décentralisation des services web.
Ça se rebase justement sur ça réexploite le caractère décentralisé d'Internet plutôt que de chercher à le recentraliser, qui est plutôt l'approche des GAFAM. On a parlé tout à l'heure aussi du pacte avec le lecteur, hein, dans le cadre de l'introduction que nous a fait Hervé. Comment se financent ces réseaux sociaux alternatifs décentralisés aujourd'hui?
Du coup, finalement, on peut citer Peertube. Donc Peertube, c'est une alternative à YouTube qui est proposée par Framasoft. Et en gros, ce que Peertube dit, c'est qu'eux, ils veulent être indépendants de ce qui nous bloque aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous bloque? Donc par exemple, quand des YouTubeurs veulent faire des vidéos, pour se rémunérer, ils doivent utiliser de la publicité. Donc la publicité que les visionnaires de la vidéo vont devoir regarder et qui va potentiellement les influencer sur leurs achats futurs. Mais aussi, par exemple, faire des partenariats avec des marques de téléphone, par exemple, pour le mettre en avant, ou des jeux mobiles, ou tout un tas d'autres choses. Et Peertube, eux, leur, ce qu'ils mettent en avant, c'est de pouvoir se dégager de ces solutions-là. Et comme on disait tout à l'heure avec le pacte du lecteur, finalement, c'est quand on va proposer un livre à un lecteur qui va en parler autour de lui, le but c'est que à terme, son entourage achète également ce livre pour pouvoir rémunérer l'auteur. Ben, Peertube, c'est un peu la même chose. Un auditeur va regarder la vidéo, il va pouvoir faire des dons pour cette vidéo, puisque au lieu de dépenser son argent dans la publicité qu'il va regarder et acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles, il peut directement rémunérer les personnes qui considèrent qu'ils ont le mérite de ce qu'ils font, et il veut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à produire leur art. Et finalement, on peut également en parler autour de nous pour dire aux autres, bah, regardez cette vidéo-là, elle est intéressante, et vous pouvez également payer pour rémunérer cet auteur si ça vous plaît.
Merci Grégoire de ce complément. Quentin, tu vas être obligé de nous parler quand même un petit peu des chatons, puisque un des projets qu'a lancé Framasoft pour aider à redécentraliser Internet, eh bien, c'est le projet chaton, et je crois qu'on en sait quelque chose ici.
Effectivement, comme tu dis, Stéphane, les chatons, alors effectivement, mot peut-être mystérieux pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec Framasoft. En fait, Framasoft, donc association dont on a déjà pas mal parlé, qui propose des services web libres alternatifs, s'est rendu compte que ces services étaient de plus en plus utilisés et qui gagnaient en popularité. Et en fait, c'est dit, bon, très bien, on a réussi à proposer des alternatives, les gens accrochent, mais pour autant, on n'a pas envie de devenir une sorte de GAFAM hyper centralisé, même plus éthique, parce que bah, ça pose quand même les mêmes problèmes de concentration des pouvoirs, ça pose aussi des problèmes d'infrastructure, ça pose des problèmes de résilience. Et donc, ils ont lancé une initiative. Pour introduire cette initiative, on pourrait aussi, pour appuyer un peu le clou, je pense que aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord que avoir un seul journal, par exemple, de presse, c'est considéré souvent comme un journal de propagande ou une sorte de pensée unique. De la même manière, voilà, si on lisait tous la même chose, si on devait tous manger la même chose, ça nous poserait un petit peu problème. Et donc, Framasoft s'est dit ça et a lancé l'initiative Chaton, qui consiste à avoir à encourager des personnes à héberger des services un petit peu partout en France, et donc à décentraliser l'hébergement de différents services libres.
C'est une bonne idée, ça, Quentin, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Eh ben, moi, ça serait difficile de dire que c'est une mauvaise idée. Ce serait un petit peu se foutre de la gueule du monde dans cette émission. Et d'ailleurs, Picassoft, effectivement, est également devenu un chaton dans, je crois, la troisième portée de Picassoft. Et toi aussi, Stéphane, tu en sais quelque chose, parce que je pense que tu es une des personnes à l'origine de cette candidature pour devenir chaton.
Eh bien, peut-être, en effet, ça pourra faire partie d'un quiz un jour. Quel jour a été créé le chaton Picassoft ? Mais ça n'est pas le quiz d'aujourd'hui, puisque la question d'aujourd'hui, avant de lancer la musique, c'est... Ah, je croyais que tu allais le dire, donc c'est...
Oui,
c'est,
pardon. C'est... Allez, j'y vais. Eh bien, c'est qu'est-ce que signifie chaton ? Puisqu'effectivement, ils se sont creusé la tête. Donc, indice, évidemment, c'est un acronyme. Donc, on voulait chercher sur votre moteur de recherche favori. Et on va passer à la pause musicale où on va écouter Freedom de Dazzy Bao, une musique sous licence Creative Commons by NC. Et de retour sur Graphite, désolé pour la petite interruption de cette fin de musique. Donc je rappelle Freedom par Dazzy Bao, trouvé sur le site auboutdufil.com. Alors réponse au quiz, on vous avait demandé que signifiait le sigle chaton. Eh bien chaton, ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, des valeurs que l'on porte à Picassoft et que la soixantaine de chatons en France et ailleurs portent. Également, on voudrait, avant de terminer cette émission, passer un petit coucou et remercier Eric Garcia pour son gentil message d'encouragement et également remercier les membres de l'April d'avoir diffusé nos émissions sur sa mailing list à laquelle on vous encourage
à adhérer,
exactement. Petit mot aussi, vous pouvez évidemment retrouver le projet Chaton sur le site chaton.org. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Stéphane et Grégoire.
Merci à toi,
Quentin.
Et on vous dit bonne journée et à la semaine prochaine.